Jean-Rage est lilloise.
Elle est féministe.
Et elle veut vous parler un dimanche par mois. De 14h à 15h. Soyez là.
Jean-Rage n'est pas sage.
Clac. La classe. Jean-Rage, la claque du dimanche après-midi.
Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Vous êtes bien sur Jean-Rage 99 FM sur RCV. Et aujourd'hui, on est dans une émission avec Cass qui est à la technique. Et puis Mathilde qui est à côté de moi, qui est féministe et comédienne et qui nous rejoint aujourd'hui pour m'accompagner dans la lecture de textes sur mai 68.
Bonjour.
Voilà, et donc pour vous expliquer un peu plus précisément comment ça va se passer aujourd'hui, donc on aura notre habituelle chronique actu, ensuite des lectures sur mai 68 et l'idée de révolution sexuelle, de qui, de quoi, de comment on parle, et puis une petite chronique sur un livre de Malka Markovitch, justement toujours avec en référence mai 68, donc sur l'autre héritage de mai 68. Voilà. Pour commencer la chronique actu, il va se passer plusieurs choses dans les prochains temps. Donc tout d'abord, on a les rencontres féministes avec le collectif Lille Zéro qui mettent en place un atelier sur donc le 23 juin, samedi 23 juin, de 13h à 18h, un atelier qui s'appelle « Que faire de ses privilèges ?» Être allié des luttes. Et donc, je vous lis exactement en quoi ça consiste, à moins que tu veuilles le faire, Mathilde.
T'en prie.
D'accord. Donc, ça a lieu le samedi 23 juin, de 13h à 18h. Et donc, voilà ce que ça dit. Vous avez probablement rencontré ces derniers temps le terme de « privilège », entre guillemets. Le privilège, c'est être du bon côté des oppressions, selon notre situation sociale. Nous ne disposons pas, tous et toutes, des mêmes possibilités, ressources, opportunités. Cette inégalité se retrouve dans les groupes militants. Quand on bénéficie de certains privilèges, comment ne pas reproduire dans les luttes cette position dominante? En tant qu'homme, entre parenthèses, cisgenre, c'est-à-dire l'opposé de transgenre, c'est-à-dire que quand le médecin ou la médecin vous a accouché, elle a fait « Oh, c'est une fille !» Et en fait, effectivement, dans la société aujourd'hui, vous êtes et vous considérez comme une fille. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle cisgenre, qui est donc l'opposé de transgenre. En tant que blanc ou blanche, comment être une vraie alliée sans écraser nos camarades? Éviter l'impasse de l'ignorance des privilèges, mais aussi celle de la culpabilité inefficace. En tant que minoritaire, que faire de ses alliés, parfois encombrants et encombrantes? Faut-il nécessairement travailler avec elles et eux? On définira ensemble ce que sont les privilèges et en quoi ils nous permettent de mieux comprendre les inégalités entre militants et militantes. Ensuite, on cherchera des solutions pratiques et concrètes pour faire de nos privilèges un outil de lutte plutôt que de division. Pour lutter ensemble ou pas. Alors voilà, apportez vos idées, vos expériences, de quoi prendre des notes si vous le souhaitez et un petit goûter à partager si possible. L'inscription est nécessaire donc à rencontre féministe au pluriel @gmail.com, rencontre féministe @gmail.com et c'est bien de vous inscrire en avance et pas le jour d'avant. Voilà. Autre chose donc dans nos actualités militantes sur l'île, on a aussi la soirée en mixité à Rebrousse-Poil à l'espace des 18 ponts, aussi le samedi 23 juin à partir de 20h. Et donc cette soirée, je vous explique ce que c'est. Donc à Rebrousse-Poil, parce que l'été arrive et que ton poil d'hiver commence à s'éclaircir, parce que tu fais joyeusement claquer une féminité poilue dans les rues, parce que tu as décidé de sculpter ta pelouse avec précision, parce que tes poils troublent le genre et déchaînent les passions, parce qu'un printemps répressif t'a mise de mauvais poils, parce que tu as envie d'être cette touffe qui fait dérailler le système, donc avec le petit jeu de mots sur cisgenre. Parce que rien de tel que les paillettes pour reprendre du poil de la bête. Parce que rien de tel que des paillettes pour reprendre du poil de la bête. Je vais la répéter parce qu'elle est très jolie. Parce que nos corps glabres évoluent ou volus sont démangés par l'envie de danser, vient donc festoyer au 18 Pont le samedi 23 juin. Donc à partir de 20h, il y aura une scène ouverte sur le thème d'étif et d'étouffe en tout genre. Et donc ramène tes textes, tes chansons, ton numéro de claquette ou ton vibrant playback. Et puis, c'est pas plus de 5 minutes, bien sûr. Et puis après, le show place à la boum de l'été. Et donc voilà, ça va guincher avec des DJ sets de F.A. Lula et de Franck Kakabé. Kakabai, je ne sais pas comment ça se dit, ok. Désolée pour avoir accroché tous ces petits mots. Et donc, priorité au queer féministe de tout poil sur la scène, bien sûr. Et donc, tout le prix libre ira en soutien au centre J'en suis, j'y reste. Enfin, juste pour rappeler, tous les mercredis 18h, place de la République, il y a la manif pour les personnes sans papier. N'oubliez pas, c'est toujours cool, même si vous ne pouvez pas y aller tous les mercredis soirs. Enfin voilà, d'y aller en soutien en tout cas, ou parce que vous êtes concernés. Enfin en tout cas, nous on vous soutient à fond. On est, voilà. On essaiera de passer aussi. Ensuite, petit dernier point sur un petit truc qui a fait un peu polémique ces derniers temps par rapport à la métropole européenne lilloise et à Lille. Voilà, le conseiller lillois de la jeunesse a diffusé donc sur Twitter sa nouvelle campagne contre le harcèlement de rue. Sa campagne qui disait, je cite, « Voici Lucas. Lucas a 20 ans. Lucas aime draguer. Il dit « t'es belle » au lieu de « t'es bonne ». Il est respectueux. Alors, merci. C'était sympa. Alors, juste parce que j'ai trouvé... enfin voilà, il y a eu des réactions alors de personnes plus ou moins connues, notamment Mona Chollet qui disait « Toi aussi apprends à harceler comme un vrai Français civilisé ». Bon voilà, hein, entre le classisme, le racisme et tout ce qui est à l'intérieur de cette campagne, on va pas forcément s'apesantir à tout déconstruire. Mais voilà, il y avait un tweet qui était assez drôle qui disait « Cher Lucas, ton avis sur notre physique, entre guillemets respectueux ou pas, on s'en fiche, on n'en veut pas, on veut que tu fermes ta grande bouche ». Voilà, effectivement, bah je me joindrai à ça. Je pense que aussi parfois, il y a pas mal d'assos féministes qui sont là ou de personnes féministes qui seraient ravies de donner des retours et de pouvoir un peu vous préparer parfois à faire ce type de campagne. Notamment, moi, je pense qu'on avait accueilli en septembre dernier Lille sans relou, qui aurait peut-être pu juste dire ah ouais non là ouh là là. S'il vous plaît, arrêtons les frais, sachant que cette campagne, elle a quand même été faite en lien donc avec les jeunes qui font partie de ce Conseil lillois de la jeunesse, avec les élus, donc aussi les personnes qui ont été élues par la ville de Lille, et avec le soutien aussi de techniciens. Et ça n'a choqué personne, personne n'a rien remis en cause. Bon voilà, en fait, appel à des personnes un peu extérieures sur des thématiques comme ça, je pense que ça peut toujours être utile. Voilà, et puis comme aujourd'hui, on se dit que on va parler de mai 68, de révolution sexuelle, et qu'on veut aussi oublier tous ces trucs un peu horribles qui se passent au quotidien, ben, je vous propose d'écouter une chanson de 1963 de Colette Renard qui s'appelle « Nuit d'une demoiselle » qui nous donne la pêche, le sourire, et qui parle de plaisir. Alors c'est toujours chouette.
Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. « Je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais mamourer le bibelot. Je me fais sabrer la sucette. Je me fais reluire le berlingot. Je me fais gauler la mignardise. Je me fais rafraîchir le tison. Je me fais grossir la cerise. Je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette. Je me fais chatouiller le bijou. Je me fais bricoler la cliquette. Je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise. Tout simplement.
J'enrage, dérange, désape, décape le sexisme et l'hétéropatriarcat.
Coucou, vous êtes bien de retour sur J'enrage. Aujourd'hui, émission spéciale mai 68, vu qu'on est en juin 2018. Tout ça en toute logique. Bon, vous êtes toujours sur RCV 99 FM et avec Cass, Mathilde et moi, donc Loïse, voilà. On va reprendre avec juste faire un point à peu près sur où on n'en est pas. Donc, excusez-moi, je vais juste reprendre sur aujourd'hui. L'objectif, ça serait de parler un peu de mai 68 et de l'idée de révolution sexuelle. Alors c'est toujours un peu ce truc de se dire bon voilà, on nous a un peu vendu cette idée de libération sexuelle qu'on a réentendue dans certaines chroniques récemment, notamment en réaction au hashtag balance ton porc ou MeToo, et donc je trouve que c'est un peu sympa de revenir aussi un peu historiquement sur mai 68, qu'est-ce que ça voulait dire pour la révolution sexuelle pour les femmes et pour les hommes. Et donc à partir de là, ce que je vais vous proposer là, c'est de lire 2-3 petits textes historique, et juste avant ça de vous rappeler un peu la période en termes de plutôt de date de ce qui s'est passé. Alors je sais pas si on voit qu'en 44, donc finalement les femmes ont enfin le droit de vote, elles peuvent être admises dans les jurys d'assises, avant ça elles pouvaient pas. Après donc en gros il y a en 46 la suppression de notion de salaire féminin. Et après 56, création de la maternité heureuse, qui deviendra par la suite le mouvement français pour le planning familial, qui arrive dans les années 60-61, donc tout ce qui va être sur l'idée de planification de la vie, des grossesses dans la famille. Et puis quand même dans les années 60, des députés font voter la loi comme quoi l'homosexualité devient un fléau social. Donc ça reste aussi ce truc entre deux mesures. La lutte du planning familial, bien sûr, elle se fait contre un État qui est contre totalement toute idée de contraception, etc. Les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire ou d'exercer un métier ou de faire des études sans l'autorisation de leur mari qu'à partir de 1965. Je pense qu'il faut aussi le rappeler. Donc là où il y a une réforme du régime matrimonial et où les femmes peuvent enfin gérer leurs biens, avant ça globalement elles donnaient tout à leur mari. Et puis 67, l'année d'avant, on a la loi Neuwirth sur la contraception qui devient autorisée mais dont la publicité est interdite. Et il faut aussi savoir que ce décret sur la contraception, donc quand la loi a pu vraiment être mise en place, c'est dans les années 70-72. C'est-à-dire qu'on dit 67, la contraception, en fait, non, c'était pour des privilégiés, pour des personnes qui savaient où aller demander, et il n'y avait pas de décret, donc ça restait encore plus ou moins hors la loi. Donc voilà, 68, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Donc pareil sur la question de l'homosexualité, c'est interdit par la loi, c'est pénalisé. Donc voilà, et c'est considéré comme une maladie mentale. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là que des choses se mettent en place. Donc par rapport au mouvement des femmes, je vais vous faire une petite lecture du livre de Frédéric Martel, Le Rose et le Noir, qui parle, dont le sous-titre est Les homosexuels en France depuis 68 chez Le Point. Ce livre, il est chouette, alors incomplet sur des trucs, comme toute chose, je pense, mais je trouve que ça donne une bonne idée globale, en tout cas des choses, de ce qui a pu se passer. Donc, c'est dans le chapitre « Libération des femmes, année zéro ». Le mouvement des femmes a des origines diverses. Un petit groupe se nomme, entre guillemets, Féminin Masculin Avenir, FMA, et depuis 1967, compte quelques amis issus des séminaires d'André Michel qui se rassemblaient autour d'Anne Zelensky et Jacqueline Feldman. Christine Delphi et Emmanuel Lesseps les y rejoignent. Donc là, on parle de grands noms, de grandes figures de mai 68 et des grandes figures des mouvements féministes, notamment de la deuxième vague. Même si ces figures, ça reste des figures, ça ne veut pas dire qu'elles sont bien en tout, etc. etc. mais voilà, juste, elles ont participé à toute cette histoire. Après mai 68, FMA devient Féminin Marxisme Action. Donc, marxisme a remplacé masculin. Bientôt, les hommes seront écartés dans les faits. En parallèle de FMA, un autre cercle, dit groupe de Vincennes, s'est constitué autour de l'écrivaine Monique Wittig, avec Antoinette Fouque, Françoise Duroc, Margaret Stephenson. C'est en lisant Le Nouvel Observateur où une lettre de FMA est publiée et L'Idiot International où figure un article signé notamment par Monique Wittig que chaque groupe apprend la naissance de l'autre. Une fois les deux pôles réunis, la non-mixité est décidée, le mouvement des femmes sera homosexuel dans ses structures. Le parcours politique de ces femmes est varié. Si Cathy Bernheim est un peu politisée, certaines sont strauss-kistes ou maoïstes. D'autres ont milité dans un syndicat étudiant, l'UNEF, ou au PSU. Certaines ont eu 20 ans sur les barricades de 68, d'autres pourraient être leur mère. Elles ont milité lors de la guerre d'Algérie, ou plus tard, dans les comités Vietnam. Plus ou moins imprégnées de gauchisme, toutes celles qui se rejoignent en 70 ont en commun de vouloir dénoncer le machisme des militants d'extrême gauche. Position sur laquelle se retrouvent également les militants du phare. Par rapport aux trotskistes et bientôt aux hommes de Vive la Révolution, les femmes se considèrent comme intrinsèquement politisées, car le féminisme est en soi politique. Elles reprochent même aux gauchistes de se tromper de combat. Votre évolution sexuelle n'est pas la nôtre. Désormais, les féministes qui partent à la recherche d'une nouvelle identité se réunissent sans présence masculine. Enfin, elles sont « entre elles », entre guillemets, réécrivent des chansons, s'appellent par leur prénom. Elles peuvent vivre leurs désirs et parler de leur corps. Cette expérience nouvelle les bouleverse. Voilà. Ouais, alors, donc voilà, ça c'est un peu pour les luttes des femmes, comment ça se passe. Après... je vais vous citer deux choses par rapport, donc je vais continuer avec le bouquin de Frédéric Martel pour parler aussi un peu de ce qui se passe dans les mouvements LGBT. En 1968, un petit groupe d'excités descend le piano à queue de la Sorbonne dans la cour et se propose de peindre un sujet révolutionnaire sur la fresque de Puvis de Chavannes du Grand Amphi. Puisque la machine à laver de maman ne tourne pas dans le sens de l'histoire et que la bagnole de papa est porteuse d'aliénation, on jette la première par la fenêtre et on incendie la seconde. Sans être au grand jour une « entre guillemets révolution sexuelle », le mouvement étudiant éclate à Nanterre par l'occupation du bâtiment des filles et revendique la mixité. Affiche et slogan d'alors « plus je fais l'amour, plus je fais la révolution, plus je fais la révolution, plus je fais l'amour ». Le pouvoir est au bout du phallus. Inventons de nouvelles perversions sexuelles. Je jouis sur les pavés. Ne sont pas étrangers à la question du désir. Pourtant, mai 68 a lieu sans qu'aucune mobilisation sur le terrain des mœurs ne soit véritablement perceptible. Et donc, passé inaperçu dans la tourmente de mai, une minuscule et mystérieuse comité d'action pédérastique révolutionnaire, vite mythifiée par la suite, tente, dans la Sorbonne occupée, de coller 8 affiches manuscrites qui dénoncent la répression des homosexuels, leur isolement, les carrières brisées, les passages à tabac par la police. Ces affiches condamnent également l'attitude de soumission des homosexuels eux-mêmes. Le genre, entre guillemets, rase les murs de l'homosexuel type aux yeux de chiens battus et ils disent pour un glorieux Jean Genet, 100 000 pédérastes honteux, condamnés au malheur, conclut l'affiche. Alors, je vais vous proposer de la lire, cette affiche, parce qu'en fait, je l'ai retrouvée grâce à un article, justement, sur ce comité d'action pédérastique révolutionnaire qui occupe la Sorbonne en mai 68, qui a été écrit par Michael Sibalis. Et donc, il reprend le tract qui dit ceci. Émue et profondément bouleversée par la répression civile et policière qui s'exerce à l'endroit de toutes les minorités érotiques, homosexuelles, voyeurs, masos, partouze, Le comité d'action pédérastique révolutionnaire dénonce la restriction des possibilités amoureuses qui sévit en Occident depuis l'avènement du judéo-christianisme. Les exemples de cette répression odieuse ne manquent pas. Vous les avez sous les yeux à chaque instant. Les inscriptions et les dessins dans les chiottes de la Sorbonne et autres, les passages à tabac d'homosexuels par la police ou par des civils rétrogrades, la mise en fiche policière, en général, l'attitude de soumission, les yeux de chien battu, le genre rase les murs de l'homosexuel type, les carrières brisées, l'isolement et la mise au secret qui se roule au lot de toutes les minorités érotiques. Pour un glorieux Jean Genet, 100 000 pédérastes honteux condamnés au malheur. Le Capre lance un appel pour vous, pédérastes lesbiennes, etc. Prenez conscience de vos droits à exprimer en toute liberté vos options et vos particularités amoureuses et à promouvoir, par votre exemple, une véritable libération sexuelle dont les prétendues majorités sexuelles ont tout autant besoin que nous. Un homme sur 20 est pédé. Sur 4 milliards de la population mondiale, ça fait 200 millions de pédés. Non pas à l'amour et à la mort, mais à l'amour et à la liberté. Voilà. Donc on voit que ça reprend pas mal ce que je disais avant, mais globalement, il a enlevé aussi quelques petites choses dedans parce qu'ils étaient très critiques des mouvements dits homosexuels de l'époque, notamment Arcadie. Et en fait, parce qu'ils disaient qu'ils n'utilisaient pas le terme homosexuel parce que c'était le terme justement qui parlait de la maladie psychique, qui parlait de tout ce qui n'allait pas. Et donc, à partir de là, en fait, ils ont parlé de mouvement pédéraste. Alors, il faut savoir que ce mouvement a duré 2 semaines. Effectivement, ça semble être juste une petite étincelle à ce moment de mai 68. Mais bon, mai 68, c'est un mois. Donc, à un moment, on peut aussi se dire 2 semaines sur un mois. Voilà. Il faut voir aussi qu'ils allaient tracter au niveau des lieux de drague, des pissotières. Ils faisaient surtout ce genre de choses, en fait. C'était vraiment ces mouvements-là. Et aussi, ils mettaient en avant aussi toute l'idée que... il faut s'enlever de la tête que les mouvements étudiants, ils étaient pro-homo. C'est-à-dire que, par exemple, Guy Okangem... Alors, je ne sais jamais dire son nom, mais je pense que c'était ça. Alors, hop. Okangem. Donc, Guy Okangem, qui était une des grandes figures, notamment après du front homosexuel d'action révolutionnaire dans les années 70. Par exemple, à cette période-là, où il était dans des mouvements d'extrême gauche, il s'est retrouvé à devoir dire devant toute une foule, et il dit qu'il a 50 ans plus tard encore honte de cela, qu'il n'est pas homosexuel. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'insultant qu'on reprochait aux gens. La plupart des étudiants étaient contre l'homosexualité. Enfin, voilà, on n'était pas dans un mouvement hippie, progressiste, etc. quoi. Enfin, mai 68, on se crée cette image un peu de révolution sexuelle, mais en fait, on voit que c'est les moments de lutte et un moment où les femmes et les minorités et donc les LGBT+, se sont aussi visibilisées, ont pu aussi dire des choses, mais que c'était pas simple en fait. Et je trouve qu'il y a un peu cette idée de mai 68 trop cool, voilà, tout va bien. Non, en fait, c'était pas ça. Et on le voit bien même, je trouve, à l'heure actuelle, alors c'est un peu un parallèle, mais quand il y a eu des films qui ont été faits sur Stonewall. Donc, on sait que Stonewall, c'était principalement des personnes noires, latinos et des personnes donc transgenres, travesties et autres qui ont aussi, enfin, et homosexuels ou bisexuels qui ont pris les devants. Et quand on voit les films, notamment l'un des derniers films qui est sorti dessus, ce qui a fait grosse polémique, c'était avec des blancs à la base, quoi. On mettait des blancs partout, des hommes blancs homosexuels, etc. Et donc, c'est comment aussi on a un peu, sur certains points, essayé de redorer l'image de ces époques-là ou de les fantasmer ou faire du fictif autour de ça, alors que non, ça s'est passé différemment. La lutte a été différente, elle se passait à un autre endroit et elle n'était pas facile, en fait. Et je pense que, enfin voilà, je ne sais pas si mon parallèle était hyper pertinent, mais il avait le mérite d'exister. De ce fait, on va faire une petite pause musicale avec, pareil, un nom que je n'arrive jamais à dire. Comme on parle de révolution sexuelle, alors voilà, même si on peut le questionner, on va passer de Guy Huggy, Le temps est bon, juste parce que nous, on veut aussi parler beaucoup de plaisir.
Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi
vous êtes bien de retour sur Jean Rage, RCV 99 FM. Là, avec Mathilde, on va vous faire une petite lecture en binôme d'un livre, enfin notamment une partie d'un livre qui est fait sous un ordre alphabétique par thématique, qui est un livre en fait de femmes qui ont vécu mai 68 et qui racontent collectivement leur mai 68, et elles ont pris plein de petits bouts de leur récit et elles les ont accolés derrière des thématiques. Donc à chaque fois on vous donnera la thématique et puis on vous lira ce qui était dit par ces femmes. Donc ce livre, il a quand même été écrit a posteriori, ça n'a pas été écrit au moment même etc. Et il s'appelle Fille de mai, mon mai 68 à moi, avec une préface de Michel Perrault, et une postface de Ludivine de Bantigny. Voilà, je vais proposer à Mathilde de commencer.
Donc, le titre de cette catégorie est « Avortement ». Sous couvert de séjour linguistique, certaines filles qui avaient fêté Pâques avant la mi-carême allaient à Londres. Encore fallait-il en avoir les moyens et connaître les filières. Les autres se débrouillaient. Car être fille-mère était la honte des hontes, un quasi-suicide social. À moins que le garçon ne répare et accepte de se marier. À cette époque, j'ai travaillé dans deux cliniques, l'une à Marseille et l'autre à Aix-en-Provence. On y pratiquait ce qu'on appelait pudiquement les K30, curetage opéré en urgence sur des femmes exsangues, à la suite d'avortements clandestins. Les bien-pensants auraient souhaité que ces interventions soient faites à vif, pour leur apprendre. Les 430 officieux faisaient courir le risque des assises. Certaines s'y enrichissaient, certains d'ailleurs. D'autres, par ce service rendu, s'attachaient le dévouement inconditionnel du personnel féminin qui avait eu recours. Marie.
Je n'avais pas d'argent pour l'Angleterre ou pour la Suisse. D'ailleurs, j'ignorais les adresses. Et j'avais très peur des arrière-cours où l'on vous charcute à coups d'aiguille à tricoter et où on chope une septicémie dont, bien sûr, l'on mourra par ignorance, faute de soins, faute d'avouer sa faute, faute même de reconnaître une faute. Donc, chaque fois que j'attendais mes règles dans l'angoisse, je pensais, eh bien, si je suis enceinte, c'est bien simple. Je me suiciderai. Je parle d'avant 68, mais tout juste. Sylvette.
Parce qu'on est féministe avant le féminisme, on avorte. Parce que le choix de l'indépendance, le désir têtu de décider de sa vie sont plus forts que la peur, plus forts que l'interdit. Avant, avortement. Ma mère en est morte. Julietta.
Contraception. Avec la pilule, une grande peur tombée. Désordre amoureux. Pouvais-je un jour autant me dire « libérée » au sens où l'entendaient les féministes ? Je ne pense pas. J'avais à apprendre à dire non, un non et un oui véritable qui n'avaient rien à voir avec ceux que mon éducation m'avait fait prononcer jeune fille.
Féminisme. Je fais la queue depuis un quart d'heure pour aller revoir Qui a peur de Virginia Woolf. Il commence à pleuvoir, les gens se resserrent sous leur parapluie. Derrière moi, deux très jeunes femmes discutent. Elles parlent de leur rapport avec les hommes. Celle qui se trouve le plus près de moi affirme qu'elle n'est pas du tout féministe. Elle dit qu'elle veut des enfants, un mari, qui puisse lui permettre de ne pas travailler. L'autre lui fait remarquer que tout de même, le féminisme a fait beaucoup de choses et a fait avancer beaucoup de choses. Toutes tes hystériques, des mal baisés. Les hommes, ça ne se prend pas de front. Ça se modèle doucement, mine de rien. Je ne suis pas d'accord, ça donne des rapports faux, ce genre de truc. Et tu n'y connais rien. Et l'autre de rappeler que si elles sont libres de sortir le soir, si elles peuvent porter une mini-jupe sans problème, si elles peuvent décider du moment où elles veulent faire des enfants, si elles sont en train de faire des études du même niveau que les garçons, si tout cela est possible, et bien d'autres choses encore, eh bien, c'est parce que des femmes se sont battues pour obtenir ces droits, cette liberté. Je ne peux plus me retenir et je me retourne. Je vous remercie. J'ai 50 ans et je vous remercie pour votre reconnaissance. Gênée, elle me sourit. Elles ne disent plus rien. Ada.
Alors, on passe dans la période interdit. Il est interdit d'interdire. C'était écrit sur les murs de la ville. Quel bonheur, quelle confusion. Fais pas ci, fais pas ça, chante du tronc, craque, boum, hu. Il est interdit de ne pas mettre de blouse, il est interdit de se maquiller, il est interdit de porter des pantalons, sauf si le thermomètre passe au-dessous de zéro, alors on peut, sous sa jupe. Il est interdit de donner des rendez-vous aux garçons devant le lycée, il est interdit de faire l'amour avant le mariage, il est interdit d'avorter, les femmes et les médecins qui vont contre la loi s'exposent à être condamnés, il m'est interdit de sortir le soir, il m'est interdit de répondre jusqu'à la mairie, où depuis toujours j'accompagne ma mère, où on nous blesse avec des propos désobligeants sur les étrangers. La préfecture de police de Paris a attribué à mon père une carte de séjour privilégiée. Il faut en être reconnaissant. Il est interdit. Plus jamais ça. Nous sommes des êtres libres et nos enfants seront élevés en toute liberté, disent-ils. De l'autorité castratrice des pères et des mères, faisons table rase. Ils peuvent coucher quand ils veulent, n'importe où, ou sur leur coussin, ou dans le couloir, ils peuvent répondre à leurs parents étonnés que déjà tant d'esprits de liberté habitent leur progéniture, ils peuvent devant tout le monde assumer leur sexualité précoce, ils peuvent prendre la pilule, ils peuvent rentrer à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent dire, eux, enfin, à leurs professeurs ce qu'ils pensent de leur enseignement et de leur comportement, ils peuvent revendiquer d'apprendre sans effort dans la jubilation. Ah, libres enfants de Summer Hill, qui construisaient un monde nouveau. Ada.
Mourir à 30 ans, version féminine. Parce que Gabrielle Russier avait cru pouvoir être prof et amante, mère et célibataire, enfant et mère, elle se retrouve au banc des accusés. Le plus infamant pour une femme, avoir abusé de son pouvoir de prof pour séduire un jeune homme de 18 ans, selon ses détracteurs. Bien qu'elle n'ait en cela fait qu'exhiber le rapport caché de désir-séduction entre enseignant et enseigné. Toujours est-il que, ne pouvant assumer cette honte, elle se donna la mort. Moi, j'avais noué des amitiés vaguement amoureuses avec quelques élèves, car je ne sais transmettre un savoir qu'à travers l'affectif. Mais jamais je n'avais vraiment été amoureuse d'un élève. Là, oui. Il a 16 ans. Il est en troisième et il me fascine. Mais Gabriel, dans l'ombre, veille. Et malgré cette réciproque attirance, il ne se passera rien de concret avec lui, car je sens la mort rôder. Je ne serai pas comme elle une victime expiatoire de 68. Luce. Libérée. Parole libérée. Imagination libérée, création artistique libérée, enfance libérée, mode libérée, liberté sexuelle, sexualité libérée, femme libérée. Je suis libérée sexuellement, dans ma tête, je l'ai peut-être toujours été. Tu es libre, non ? Affirme-t-il. Oui, je suis libre de dire non. Ça, c'est un peu plus tard, après 70, quand je suis déjà divorcée. J'aurais dû écrire... affirme-t-il ou demande-t-il ? Avant, autour de 68, c'est mon mari, insidieusement macho et qui vit cependant de mon salaire. Il m'apporte à la maison toute la littérature féministe et aussi beaucoup de littérature érotique, des petits livres roses de photos érotiques paraissant librement. Julietta.
Une illusion ? Pour correspondre à l'idée que je me faisais, dans le contexte d'alors, d'une femme libérée. Je crois que j'ai fait beaucoup de choses pour l'être, mais sans avoir conscience de tous les conflits intérieurs que cela m'entraînait. Le prix à payer est parfois élevé. Christine. Alors, sexualité. On parlait à voix basse de sexualité, et seulement entre filles. L'une d'elles était au planning familial, mais je n'osais pas l'interroger sur les méthodes contraceptives. Il me faudra attendre d'être à Londres pour avoir un premier diaphragme et de la crème spermicide qui viendra se substituer à l'usage exclusif des préservatifs. Je reste vierge jusqu'à mes 21 ans sonnés, car ma mère ne veut pas être responsable d'un enfant. Luce.
Mai 68 a été pour moi l'avènement de la parole, celle des femmes de mon quartier en particulier. Elles racontent les trahisons du mari, la peur d'une nouvelle grossesse, les avortements. Un peu plus tard, moi aussi, je m'autorise à parler. J'avoue la frustration sexuelle et l'échec conjugal, désespérément caché jusque-là. Mon divorce, une des grandes réussites de ma vie, mais toujours apparue comme une conséquence directe de mai 68. Dans le discours de 68 et dans les années 70, j'entends que personne n'appartient à personne, que la jalousie est un sentiment mesquin, à bannir absolument. Je ne suis pas vraiment d'accord, mais il m'arrive de faire semblant. Ainsi, un homme me dit « Je te trouve jolie. Je ne te promets ni durée ni continuité. Je suis mariée. J'ai déjà une amie. Mais j'ai envie de faire l'amour avec toi. » J'accepte de passer une nuit avec lui. Puis une autre rencontre 6 mois après. Mais je lui en veux terriblement. Je ne suis qu'un jouet pour lui et je ne veux pas être un jouet. Certes, j'apprécie au plus haut point la pilule qui, entre parenthèses, ne se banalise que dans les années 70-75. Je peux faire l'amour sans craindre de me retrouver enceinte, mais elle ne résout pas tout. Et la fameuse libération sexuelle prônée en 68 cache bien des pièges dont je suis victime. Donjuanisme, peur de l'engagement, non-écoute du désir de l'autre sous couleur de liberté. Les aventures, voire les liaisons plus longues, me laissent la plupart du temps un goût d'amertume. Je ne rencontre que des hommes négatifs qui se posent en sauveurs alors qu'ils ne sont que des amants médiocres. Qui pourrait vouloir de toi en dehors de moi, avec ton caractère, tes exigences, etc. En plus, tu n'es pas belle. Et il ne m'accorde en temps et en tendresse que la portion congrue. Ma seule rencontre vraiment heureuse est au printemps 71, celle que je vis avec Habib, un docker tunisien, pauvre et analphabète, d'une totale générosité et qui m'aime avec passion. Et puis, quoique éprouvant beaucoup de plaisir, je suis hypersensible de la racine des cheveux aux doigts de pied. Comme je n'ai pas d'orgasme extraordinaire, je me demande si je suis normale. Jusqu'au jour où je me fiche de tout cela et ose m'avouer que je ne veux plus être la seconde ou la dixième, mais la seule et unique, et que je veux un homme pour tous les jours, que je veux aimer et être aimée. Point. Il me faut encore quelques années avant de rencontrer, par petite annonce, ce compagnon dont je rêve depuis toujours. Je viens d'avoir 49 ans, c'est en 85. Aujourd'hui, à 65 ans, j'ai une vie sexuelle épanouie, de plus en plus riche. Je vis l'amour et la tendresse au jour le jour, et depuis 16 ans que je suis avec le même compagnon, nous ignorons la routine. Non, ce n'est pas la perfection. C'est mieux que cela. La vie, tout simplement. Chantal.
Sexualité. Un mot que je prononce pour la première fois en 1967, en terminale. Sexualité, tabou, pulsion. La révolution sexuelle va faire éruption dans ma vie, la bouleverser. Le désir du corps de l'autre n'est pas un péché. Assouvir ce désir non plus. Le sexe n'est pas un organe impur, il a des besoins comme un autre. Les textes disent tous cela, l'air du temps, mais pas la société, la famille, ni le noyau dur tout au fond de moi. Et l'âge adulte, la majorité, sont à 21 ans. Ada. Alors, c'est intéressant, enfin moi je trouve ces textes-là, parce qu'en fait, tout ce qu'on peut nous dire du genre faire l'amour, voilà, le plaisir au bout du phallus ou des choses comme ça, hyper hétérocentrées, hyper centrées sur justement ce pénis, etc. Voilà, dans les discours des femmes, on voit que les préoccupations, elles ne sont pas forcément les mêmes autour de bim, on va s'envoyer en l'air, youpla boum, mais plus de dire non, de contraception, d'IVG, d'amour aussi, peut-être tout simplement, de rencontre de soi, rencontre avec ses sœurs, etc. Et ça me fait penser à. Donc, il y a aussi, parce que là, les grandes absentes dans ces textes-là, ce sont aussi les femmes homosexuelles, donc. Enfin, ou lesbienne, voilà, je sais pas exactement selon voilà comment elle s'appelait. Et là, j'ai un petit texte qui sort du livre de l'oppression des femmes, qui est un livre qui a été écrit en 71, donc de textes qui venaient de 68, et des collections Poche Club, édition Pierre Belfond. Donc voilà, je vous lis un petit texte. Répression de l'homosexualité. Moi, la répression a commencé dans la famille, la pire. Parce que quand tu es mineur, tu es complètement bloqué. T'as plus qu'à attendre 21 ans, quoi. Parce que sinon, tu as la maison de redressement qui t'attend ou l'asile psychiatrique. Moi, personnellement, je savais que j'étais homosexuelle depuis l'âge de 13 ans. Bon, mes parents ne s'en doutaient pas. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'était assez visible. C'était le genre politique de l'autruche. J'ai aimé une fille à 11 ans, d'une manière vraiment extraordinaire. J'ai voulu me tuer après. Amour platonique, bien sûr. J'imagine même pas qu'on pouvait faire autre chose. Depuis, je savais vraiment que j'étais homosexuelle. J'en avais vraiment pris conscience et je voulais absolument rencontrer une femme. Je savais pas comment parce que j'étais dans un lycée mixte. J'avais des tas d'amis, mais j'avais tellement peur qu'elles sachent que j'étais homosexuelle et qu'elles se barrent que bon, je fermais ma gueule. Bon, à l'époque, elles sortaient toutes avec des mecs. Je sortais avec des tas de mecs pour faire comme elles, pour rester avec elles. Il y avait un truc qui était assez intéressant parce que beaucoup d'homosexuels m'ont dit la même chose. Comme sentiment. Quand on est en boum et qu'il y avait des mecs, il y avait deux choix pour les nanas de l'époque. Je ressentais ça comme ça. Ou la petite fille bien sage, vachement sérieuse, qui n'intéresse personne, ou le genre vamp. J'étais une vamp. Je m'habillais d'une manière incroyable, voilà. J'étais pas tellement bien dans ma peau. J'étais, voilà. Quand je sortais avec un type, je préférais qu'il sorte avec moi plutôt qu'avec une fille que j'aime bien. Alors bon, j'ai fait ça jusqu'à 18 ans, Arrivée chez eux, je partais en courant. Je pouvais pas coucher avec eux. C'était des flirts, ça durait 3 semaines et c'est tout. Je pouvais pas aller plus loin. À 18 ans, c'est devenu impossible. Il fallait que je rencontre une nana. J'étais complètement paumée et j'en rencontrais pas. Et alors, elle raconte plein de choses. Elle raconte tout son parcours, son histoire, voilà, dans un récit qui est long et que donc je ne pourrais pas vous lire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait, un chouette passage, en tout cas, sur son identité de genre et sur comment elle se positionnait et ce qu'elle pouvait se questionner. Je n'ai pas voulu de neurose dans mes cheveux. Étais-je un garçon manqué ou une sale gouine, une petite fille déjà révoltée? Je n'ai pas voulu me séparer des jeux de mes frères et jouer seule à la poupée. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une petite fille déjà révoltée? Je préférais les pantalons en jupe qui entravent. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une petite fille déjà révoltée? Je n'aimais pas que les mecs, rois des trottoirs, des bars et des cinémas, me sifflent, me pincent les fesses et me baratinent avec mépris. Étais-je un garçon manqué, une sale gouine, une adolescente déjà révoltée? J'ai embrassé une femme, ma sœur. J'ai couché avec une femme, ma sœur, et je m'en suis trouvée fort bien cherchant l'égalité. Suis-je toujours un garçon manqué, une sale gouine, ou une femme révoltée? Voilà, c'est, je trouve, assez chouette et ça visibilise aussi. Donc, il y a plusieurs portraits de ces femmes. Il y a aussi, ça revient aussi sur, dans les mouvements militants, les inégalités et que je trouve qu'ils peuvent aussi être visibles parmi les récits qu'on a vus. On va faire une petite pause musicale pour nous remettre de toutes ces émotions. Hein. Et parce qu'après, on va... Alors, je fais un petit trigger pour après, c'est que potentiellement, on va parler aussi de tout ce qui va être violence, et notamment violence sexuelle. Donc, je vous préviens, pour celles et ceux qui, et les autres qui n'auraient pas envie d'entendre parler de ça, on va avoir une petite chronique de 5 minutes sur cette thématique-là, en lien avec mes 68. Donc, je préfère vous prévenir. Et d'où, de ce fait, on passe un peu une chanson en mode... Vive le consentement, wannabe, les Spice Girls.
J'enrage le courage d'un intraveineux.
Coucou, vous êtes bien de retour sur J'enrage, 99 FM sur RCV, qui veut dire Radio Cité Vauban et non Radio Cato Vauban, lol. Excusez-moi, je voulais faire la blague un jour, je me suis dit aujourd'hui c'était le bonjour. Voilà, donc on est de retour et on va parler notamment donc, pour poursuivre sur la question de révolution sexuelle, mai 68, libération sexuelle, etc. Donc comme on avait pu voir ensemble, cette idée de libération sexuelle, bon voilà, pouvait être un peu remise en cause en tout cas sur l'idée de mai 68 et je pense qu'il y a plein d'autres, voilà, d'autres bouquins dont je n'ai pas parlé, notamment sur, dans le livre de l'oppression des femmes, il y a tout un récit d'une femme qui raconte comment elle a été oppressée par son conjoint militant pendant des années et que en fait elle s'est retrouvée à faire tout l'opposé de ce pour quoi elle luttait, et notamment parce que les militants d'extrême gauche, ils savaient très bien faire ça et très bien, enfin voilà. Qui savent toujours d'ailleurs. D'ailleurs, petit atelier des rencontres féministes. N'hésitez pas, les gars. Hein. voilà, si tu es un homme cisgenre, vas-y, je pense que tu peux être concerné. Et donc, toujours est-il que, voilà, ces choses-là, elles se passaient et elles se passent toujours. Et donc, cette idée de révolution sexuelle, elle est limitée. Et notamment, elle est limitée pour autre chose, c'est-à-dire qu'il y a Malka Markovitch qui a écrit L'autre héritage de mai 68 chez Albin Michel. Alors, globalement, ce livre, il ne représente pas tout ce qui se passait pendant mai 68, mais ce qu'elle essaye aussi de mettre en avant, c'est que voilà, mai 68, cette période en tout cas 68-70, ça a apporté énormément de choses pour les femmes, donc tout ce qui va être lutte pour l'avortement, lutte pour la contraception, lutte de reconnaissance des violences et notamment du viol en 81, voilà, toutes ces luttes-là, elle découle de 68 et ça, elle le reconnaît et elle montre comment il y a eu une forte vague qui a permis non pas un truc de l'ordre du plaisir, mais du contrôle du corps des femmes, enfin par les femmes en fait. C'est-à-dire elles se sont découvertes, elles se sont rencontrées, elles se sont parlées. Et elles se sont aussi protégées de tout ce qui était l'impact négatif des rapports potentiellement, enfin voilà, qui des rapports notamment avec des personnes qui ont un pénis et des spermatozoïdes, donc notamment qui peuvent les qui pouvaient les faire qu'il y ait une grossesse. Donc elles se la libération, elle est passée par là en fait, par le contrôle de leur corps, le contrôle de leur fertilité, etc. Et elle met en avant que sur cette idée après de libération sexuelle, il y a plusieurs choses qui se passaient qui étaient à remettre en cause et à prendre avec des pincettes. Elle parle notamment, elle fait un peu tout un portrait culturel de l'époque dans mai 68. Et par exemple, elle parle de 67, un film qui sort au cinéma avec Jacques Brel qui s'appelle Les risques du métier, qui est un institut. Donc on voit une affiche où il y a Jacques Brel devant et trois gamines derrière qui ont l'air un peu perverses. Et donc Les risques du métier, c'est un film qui raconte comment un instituteur est accusé de viol. Donc ça donne vraiment cette idée que les femmes peuvent vraiment parler et que les victimes peuvent vraiment parler, hein, dans cette période on se sent totalement soutenu. Et donc pas du tout en fait, vraiment c'est comment il y a eu une sorte de moyen de changement de sens des réalités pour ne plus permettre aux victimes déjà de se sentir victimes, de se voir comme victimes et puis aussi de pouvoir parler. Alors elle dit c'est pas totalement que ça. Je pense qu'il faut pas du tout être manichéen ou manichéenne là-dedans. Hein. C'est ni jaune ni violet. C'est pas différentes choses. C'est entre deux. Il y a plein d'entre deux qui se jouent pendant cette période. Mais voilà. Et donc ce qu'elle met en avant au-delà de ce film, donc elle parle de ce film, elle parle aussi de Irina Ionesco, qui prend des photos de sa fille Eva entre ses 4 et ses 12 ans, où sa fille est habillée comme une femme adulte et elle est nue, elle est érotisée, elle est sexualisée. Elle parle des débuts de David Hamilton, donc, qui a été accusé de viol et qui est mort récemment. Il s'est suicidé d'ailleurs, je crois. Bon, ça serait bien, de toute façon, voilà, c'est ce qu'il méritait. Moi, je suis désolée, un moment... Non, mais David Hamilton, qui a quand même fait énormément de photos de jeunes filles qui avaient 10-15 ans, qui avaient toutes l'air hyper érotisées, éthérées, etc., qui étaient totalement sexualisées et dont il abusait. C'est-à-dire que dans le livre de Malka Markovitch, elle raconte comment il y a une jeune fille qui lui dit « Ben, ma tante, voilà, on allait voir David Hamilton, elle m'a dit « Proche pas trop de lui, c'est un gros cochon. » Et donc à un moment, en fait, les gens savaient, on savait un peu, voilà. Et puis il y avait cette idée de changement de sens des réalités, on enlève toutes les hiérarchies, on enlève les rôles, on efface les limites. Et c'était un des mouvements aussi qui se passait dans mai 68, c'était aussi ce changement de sens des réalités. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'elle parle de toutes les conséquences dans notre société aujourd'hui, etc. On n'a plus vraiment le temps, mais je vous ferai un petit truc. En tout cas, je vous posterai sur Malka plus de choses. Nous, on va partir aux Radio Rageuses avec les copines. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Désolée pour cette fin rapide. Merci Mathilde d'avoir été là. Je ne sais pas du tout pourquoi je prends un accent totalement horrible. Je pense que c'est le stress. Veuillez m'en excuser. Et on va finir avec une musique joyeuse pour changer de tout ça qui s'appelle De Vinyle, I Touch Myself, grande promotion de la masturbation. Donc voilà, et puis des bisous et à vite.